La famille reste en bas, à boire le café. C'est l'heure des conversations qui sont pas de mon âge. L'heure pour parler des choses que, de toute façon, tu comprendrais pas, mon chéri. Seulement voilà, j'ai très bien compris. Je redescendais, faire le bisou du soir. Au milieu de l'escalier, j'ai stoppé net, arrêté par un silence inhabituel. Et j'ai vu. J'ai vu mon père et ma mère serrés l'un contre l'autre près de l'évier et qui sanglotaient. Jamais j'avais imaginé que mon père avait des yeux qui pleuraient. J'ai vu, adossés aux portes du grand placard, Tristan et Pierrot qui pleuraient pas. Tristan ramenait ses cheveux en arrière, enfonçait ses mains dans les poches de son jean. Pierrot, lui, regardait papa et maman. Ses yeux étaient mangés par la peur. Et puis j'ai vu Léo, au milieu de la cuisine. Il était encore assis à table, il avait le visage baissé et cet air un peu absent qui me traîne depuis quelque temps. Il jouait à faire des boulettes avec de la mie de pain. Tristan lui a demandé. Depuis quand? 3 ans, d'après ce qu'ils disent. Mais tu sais comment tu l'as chopé? Putain, mais on s'en fout de savoir comment je l'ai attrapé. Qu'est-ce que ça changerait? Mais t'es con ou quoi? Je te dis que je vais crever du sida et toi tu me demandes comment je l'ai chopé. J'ai 19 ans et je vais mourir, Tristan. T'imagines? Je vais mourir.
C'est comme ça que petit Marcel apprend que Léo, son frère aîné, est malade du sida et qu'il va mourir. Des années plus tard, petit Marcel, devenu adulte, est toujours hanté par la maladie de Léo. Il veut apaiser sa douleur, alors il prend les seules armes qu'il a en sa possession, un feutre, une feuille de papier, et il redessine son enfance pour mieux la dire, la comprendre et enfin tourner la page. Le spectacle Tout contre Léo, proposé par la compagnie du Dagor et en coproduction avec d'autres compagnies, est une adaptation d'un roman de Christophe Honoré, paru aux éditions L'École des loisirs. La pièce mise en scène par Marie Blondel et interprétée par Thomas Gornet raconte avant tout une histoire de famille, une histoire de secrets et de non-dits à travers les yeux et les mots d'un enfant de 10 ans. Les sentiments d'angoisse, de tristesse, de révolte et de colère se croisent et s'entrechoquent sur scène, mais toujours avec humour, et à aucun moment la pièce ne se veut pathétique ou larmoyante, simplement sensible et vraie. Le thème du sida est donc un prétexte à d'autres interrogations autour de l'amitié, de la mort et du deuil. Ces questions sont abordées avec pudeur mais sans hypocrisie, interpellant différemment les enfants comme les adultes. Lors d'une représentation donnée au théâtre d'Arras, j'ai eu l'occasion de rencontrer Thomas Gornet, qui joue le rôle de petit et grand Marcel et qui est en résidence au théâtre. Il nous donne quelques indices pour mieux comprendre ce qui arrive au petit Marcel et nous explique son travail de comédien, tout simplement. Est-ce que c'est difficile de redevenir un enfant sur scène?
En fait, ça se voit pas forcément, mais nous, avec Marie, la metteur en scène, on a pris le parti que c'était pas forcément petit Marcel qui parlait, qui ouvrait le spectacle, mais c'était grand Marcel, quoi. Et qu'il racontait ses souvenirs. Donc en fait, à aucun moment, j'ai l'impression d'avoir 10 ans, en fait. Alors je sais bien que les gens, j'ai 10 ans, les gens projettent sur moi... un enfant de 10 ans, mais c'est la force du théâtre, qu'on pourrait dire, j'aurais pu dire, je suis une blonde platine et je suis danseuse de Lido, on m'aurait cru, quoi. Enfin, quand Marcel se souvient de son copain d'enfance, Yvan, là, la metteur en scène, Marie, a voulu qu'on ait un code de jeu beaucoup plus burlesque, et là, pour le coup, c'est même presque du clown, en fait. Et là, pour le coup, effectivement, je grossis les traits d'un enfant, c'est même presque d'un pré-ado, presque. Et c'est peut-être là où souvent les enfants ils rigolent parce qu'en plus il est un peu con et tout, et voilà.
Pour la mise en scène et pour le travail autour, comment on fait pour faire passer ces émotions à un jeune public?
En fait, c'est de manière générale, quand on travaille sur du spectacle jeune public, on pense pas aux enfants, en fait. C'est la meilleure solution, en fait. C'est-à-dire qu'on monte le spectacle tel que nous on aura envie de le voir. Et puis après, si le spectacle est réussi, il est tant mieux pour tout le monde, quoi. C'est bien pour tout le monde. Et puis s'il est mauvais, il sera mauvais pour tout le monde, quoi. Mais je pense que de se dire on va faire un spectacle pour enfants, en faisant attention aux enfants, c'est une bonne manière de se planter, je pense. Mais bon.
Et est-ce que c'est aussi la première fois que c'est adapté sur scène ce genre de scénographie, en parlant d'une maladie?
Alors, Tout contre Léo, ça a déjà été adapté. Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois que c'est adapté. D'ailleurs, il y a un technicien du Théâtre d'Arras qui se souvient avoir accueilli une version qui avait beaucoup, beaucoup tourné. D'ailleurs, sur Internet, je crois qu'ils l'ont filmé. Si on tape Tout contre Léo sur Dailymotion, on tombe dessus. Et donc, ça a déjà été adapté. Voilà. Donc, oui, après, il y a de plus en plus, c'est même comment dire, dans le théâtre jeune public, il y a de plus en plus de théâtre, de spectacles qui abordent des thèmes dits difficiles. Enfin, l'année dernière, à Arras, j'ai joué un spectacle qui s'appelle Les Orphelines. D'une autre compagnie, voilà, qui aborde, dont le, comment dire, la source d'inspiration était l'infanticide et le féticide des petites filles en Asie. C'est pas spécialement très marrant pour les enfants, mais bon, ça faisait un spectacle qui parlait de ça, entre autres, quoi. Donc c'est de plus en plus répandu.
Alors t'es en résidence ici depuis un petit moment, t'as rencontré certainement aussi des enfants, t'as pu discuter avec eux, certainement aussi des ateliers. Qu'est-ce qu'ils te disent alors, les enfants? Est-ce qu'ils sont plus axés sur les thèmes de la pièce ou sur la façon de faire?
Bon, il y a un peu les deux, c'est-à-dire, ça dépend des âges en fait. Les primaires, ils sont plus, enfin ça dépend, je vais faire des grosses généralités, mais en gros, les primaires sont souvent plus sur la technique ou ah, c'était marrant, machin. Mais après, quand on les sonde, on voit qu'ils ont aussi très bien compris tout le second degré. Et après, les collégiens, les lycéens, eux, oui, enfin, de toute façon, tout le monde est pareil, hein. Tout le monde prend le même spectacle de la même manière, sauf que on l'exprime pas de la même façon en fait. Donc oui, il y a toutes sortes de questions, la plus bête, j'allais dire, mais évidente à poser, genre, je sais pas, comment vous faites pour... des fois, c'est absurde, hein, comment vous faites pour boire de l'eau, t'es là, bah, je sais pas, j'ouvre la bouteille, je bois, enfin bon. Et puis des fois, voilà, ils ont des questions assez, assez stupéfiantes sur le spectacle, sur le thème et tout, il y a des retours super chouettes, quoi, enfin, comme tout public, quoi, comme un adulte aussi peut dire des choses intéressantes ou inintéressantes.
D'école ce soir avec Yvan, on a fait une grosse connerie. Sur le moment même, je m'en suis bien rendu compte que c'était une grosse connerie, mais j'ai pas pu me contrôler. C'était comme une force du fond de mon cœur, un truc vachement puissant auquel j'obéissais sans résistance. À côté de moi, il y avait Yvan qui gueulait sa mère, qui me disait d'arrêter, qu'on finirait en tôle avec mes conneries, que j'étais débile et tout ça. Je voulais rien entendre. Je supportais pas de voir chialer comme un CP. Si t'es mon ami, fais-le aussi. Fais-le, je te dis. T'as pas le choix. Si tu le fais pas, je dis à Cécile que t'es amoureux d'elle. Tu sais très bien que je suis plus fort que toi. Yvan a pris une pierre et l'a lancée contre une vitre. Ça a fait un bruit sec et aigu. Alors le carreau s'est mis à trembler et il s'est effondré en prenant tout son temps. Une mosaïque de verre qui dégoulinait dans la boue du chantier. J'ai souri à Yvan. À nous deux, on a bousillé tous les carreaux de la médiathèque en 5 minutes. Tous les carreaux, fraîchement installés, encore zébrés de peinture blanche, se sont effondrés sous nos jets de pierre. Le travail terminé, c'était comme une frontière de verre qui bordait le bâtiment. J'ai observé l'étendue des dégâts avec calme, sans penser à fuir, sans prendre peur d'avoir alerté le voisinage. Non, j'ai regardé ce tableau sans fierté. Ni honte, reconnaissant en revanche, comme devant un geste juste.
La mise en scène et la scénographie, comment vous avez travaillé? Parce qu'il y a quand même, c'est assez original, il y a des découpages, de bandes de papier. Comment c'est venu ces idées-là?
Bah, c'est Marie, la metteur en scène, qui, quand on a commencé les premières répètes, j'ai pris une texte et puis je l'ai lu à haute voix. Et tout de suite, on s'est dit, c'est grand Marcel qui parle, c'est pas petit Marcel. Donc on s'est dit, bon, on n'est pas, pour imaginer le décor, on n'est pas dans un endroit précis. Mm-hmm. Alors Marie s'est dit, ça elle ne sait même plus pourquoi je crois, c'est qu'elle avait envie que Grand Marcel soit devenu dessinateur. Elle imaginait un Grand Marcel qui soit devenu un petit peu taiseux, quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui s'est renfermé, et donc qui se réfugie dans le dessin. Elle a eu cette idée-là. Et du coup, au début, on disait, ouais, il pourrait être dans un garage, dans un grenier, en ressortant des vieux dessins, et voilà. Donc on est parti là-dessus, sur le papier. Et après, avec Frédéric Pickering, qui a fait le décor, On a travaillé ensemble, voilà, enfin c'est surtout Marie et lui qu'on travaille ensemble. On est passé de la table à dessin au paperboard, voilà, à ça, cette espèce de grand étendage à linge là, à accrocher des fils. C'était un peu comme les fils de ses souvenirs, comme c'était son esprit. Enfin, après, c'était histoire d'avoir un décor aux multiples sens en fait. Enfin, je trouve que c'est chouette effectivement d'avoir un. De pas tout donner aux gens, que chacun puisse projeter ce qu'il veut sur la scène, quoi.
Et tout est calibré à l'avance, ou est-ce que vous vous permettez, avec celle qui fait les lumières et la musique, une petite part d'improvisation à chaque spectacle ?
Non, c'est assez calibré. Après, c'est aussi calibré que peut l'être un spectacle vivant. C'est-à-dire que des fois, je sais pas, je suis pas en forme, ou des fois, je sais pas, je savonne, ou j'oublie un truc, ou Lucie qui fait la régie, je sais pas, se trompe. Enfin, voilà. Enfin, on est humain, donc il y a des imprévus. Mais a priori, on essaye de faire tout le temps la même chose. En essayant que ça ait l'air d'être la première fois qu'on le fait, quoi. C'est tout le problème du théâtre. Mais non, il y a pas. J'ai pas une plage d'improvisation. Non, c'est très très calibré. En plus, j'ai une préparation assez précise avec les pinces, les papiers, les trucs. J'ai pas beaucoup de liberté en fait. Mais c'est agréable, hein, d'avoir une contrainte à respecter et encore une fois d'essayer à chaque fois d'être vrai alors que tout est calibré. C'est un défi qui est intéressant à relever.
Et les personnages que tu joues, ils sont différents, notamment la grand-mère qui est assez finalement sympa, même si elle est assez gutturale. Est-ce que tu t'inspires de personnes que tu connais, réelles, ou alors tu crées carrément le personnage ?
Non, je sais pas comment ils sont venus, mais après je peux projeter quelque chose. Pour la grand-mère, on s'est rendu compte on trouve qu'elle ressemble un peu à une grand-mère de Miyazaki. Donc du coup maintenant j'ai ça en tête, j'ai une grand-mère japonaise, alors que bon elle n'est pas japonaise, mais j'ai ça en tête. Yvan, j'ai un peu Dingo en tête, un peu, une espèce de truc, ou Bambi avec ses jambes un peu trop grandes, mais c'est venu après coup. Et par exemple, il y en a un autre, le père d'Yvan, je ne l'ai pas trouvé, et pourtant ça fait un an et demi que je joue au spectacle, j'ai toujours pas trouvé, et je crois que j'y arrive pas parce qu'en plus j'essaye à chaque fois de projeter quelqu'un que je connais et ça marche pas du tout. Donc je sais pas, un jour peut-être qu'il va arriver, mais non, je sais pas, ça sort comme ça, et puis après voilà, il y a Marie en face qui me dit bah oui, non, un peu plus, un peu moins, ou...
Le titre également, il est intéressant, puisque tout contre Léo, moi au début j'avais commis le lapsus de dire tous contre Léo, alors est-ce qu'on peut le mettre dans les deux sens, parce que tout contre, on peut évidemment dire, bon bah on essaie de le protéger un peu en ne lui disant pas tout, on a l'impression que le gamin sent que tout le monde est contre lui.
Oui, je pense que Honoré il a fait exprès, hein. C'est à double sens évidemment, et d'ailleurs souvent les enfants ils ont du mal à entendre le sens câlin, quoi, le sens on est contre lui pour le protéger. Ils entendent tout de suite tous contre ou toutes les choses autour de lui contre Léo. C'est assez étonnant. Et puis c'est bien quand ils découvrent dans le spectacle qu'au moment où l'expression arrive, bah là elle est employée comme un moment où ils se font un câlin, quoi, où c'est un moment d'amour. Donc c'est plutôt chouette. Ça c'est la force de l'écriture de Christophe Honoré, quoi.
Marcel, pour s'évader, écoute de la musique dans un vieux Walkman à cassette. Et puis, un jour, la cassette emmêle sa bande dans le système de lecture. Et voilà que celle-ci se déroule sous le regard du jeune public venu nombreux. On est à l'ère du MP3 et je lui ai demandé comment la génération streaming et autres progrès technologiques pouvaient appréhender ce dinosaure sonore. Il nous parle de l'importance de laisser les choses dans l'époque.
On n'a pas eu la réflexion directement, mais je pense que ça arrive qu'ils ne savent pas, mais c'était une manière de dater le spectacle. Enfin, Marie voulait que, comme le texte a été écrit en 96, elle a eu envie de le dater, puis j'étais d'accord avec elle parce qu'en fait, il y a justement par rapport au sida, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le spectacle, dans le roman et donc dans le spectacle, qui sont vraiment datées de l'époque. Alors, malheureusement, on voit que ça existe encore, mais par exemple, le fait que quand on apprend que quelqu'un est séropositif, il est forcément pédé ou drogué, bon, ça existe, il y a encore ce préjugé-là aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment systématique, quoi. Donc, on voulait, notamment pour ça, on voulait que vraiment ce soit daté. Donc, d'où aussi le choix des musiques que Marie a choisies dans son adolescence, de l'époque, quoi, fin 90, début 2000. Et le Walkman, oui, c'est pour vraiment dater le truc. Mais après, je me dis, les enfants, ils comprennent, ils voient qu'il y a une musique qui passe, que le personnage la chantonne, donc visiblement la musique est avec lui, et que quand la musique déconne, c'est un appareil qui marche plus. Donc bon, peut-être qu'ils savent pas ce que c'est, mais ils comprennent. Enfin, c'est comme si, je sais pas moi, ils voient un gramophone sur scène dans une pièce, voilà, on comprend, quoi.
Justement, la musique, ouais, j'allais y venir parce que c'est un choix, à mon avis, de ne pas choisir des musiques très sirupeuses, hein, qui suivent vraiment le tragique de la situation. Donc, il fallait que toutes ces musiques percutent et qu'elles transcendent un peu cette colère qu'il a en lui.
S'il y en a une qui est un peu où on a hésité d'ailleurs, puis on l'a laissé, je pense qu'on a bien fait, c'est à la fin No Doubt, qui est quand même assez mélodramatique sur un moment mélodramatique. On a rajouté de l'orage dessus pour la muscler, mais on a hésité. Puis en fait, voilà. Mais c'est vrai que oui, toutes les autres musiques, ça c'est Marie qui a tout choisi. Hein, effectivement, elle a, dans son travail, elle fait un travail en contrepoint, c'est-à-dire que, mais comme le texte de Christophe Honoré, c'est-à-dire que c'est, on alterne toujours des moments rigolos, des moments tristes. Et puis au moment où on va pleurer, bing, il y a une connerie. Donc au moment où on va rigoler, pouf, il y a un truc triste. Donc elle a à chaque fois. Elle a travaillé comme ça. Après, ce qui a été compliqué aussi, c'était quand on utilise des musiques connues, des chansons connues, c'est qu'on n'a pas tous le même vécu. C'est-à-dire, par exemple, des trentenaires, La Rousseau, Tu m'oublieras, ça nous fait marrer. Des enfants, ils connaissent, parce qu'en plus, donc ils connaissent, mais ça ne les fait pas spécialement marrer. Ça les fait rire de voir le personnage chanter, mais nous, on rigole parce qu'on se souvient que c'était nul. Mais eux, ils n'ont pas ce truc-là. Donc, à un moment donné, on s'est demandé s'il n'aurait pas fallu qu'on invente des chansons de variété, en fait. On aurait bien aimé faire ça, mais bon, peut-être plus tard, mais un peu comme Riyad Sattouf a fait dans Les Beaux Gosses, quoi, que je trouve assez bien réussi, parce que du coup, c'est daté et pas daté, le film, du coup. Mais bon, voilà, du coup. Voilà.
Tu parlais de la scène de No Doubt, justement, avec cet orage, que je trouve particulièrement réussi. Et ce système de sauts, comme des balançoires, on a l'impression que les feuilles volent, qu'on est dans un parc. Comment tu t'y sens, toi, dans cette scène ?
Moi, je suis nulle part, parce que je sais que les gens ils projettent des choses différentes. Bon, c'est souvent la balançoire, mais des fois, c'est autre chose. Moi, je m'y sens bien, ouais. J'ai l'impression d'être toujours chez Yvan. Enfin, j'ai l'impression que Marcel est toujours chez Yvan, en fait, qui est dans le... Enfin, même pas, en fait. Non, je dis ça, mais j'ai l'impression qu'il est dans sa tête, en fait. J'ai toujours l'impression que quand Marcel est dans un état où il réfléchit, je me situe dans une espèce de no man's land, quoi, que le décor redevient quelque chose d'abstrait, j'ai l'impression d'être dans ma tête, enfin dans la tête du personnage, en fait. Donc je tape les sauts parce que Marcel est furieux, donc il tape contre quelque chose, mais je m'occupe pas de savoir si ça fait une balançoire ou un saut qui bouge, quoi.
Je comprends qu'ils attendent quelque chose de moi, je sais pas trop quoi, mais je me lance. Il y a Yvan qui m'a raconté une histoire cet après-midi. Bon. C'est un peu dégueulasse, mais ça devrait vous plaire. Hein. Voilà. Quel est le comble de la confiance en soi ? Bah, c'est péter quand on a la chiasse ! Rapidement, ça redevient silencieux. Il me fixe de nouveau. Maintenant, je comprends ce qu'ils attendent de moi. Que je comble ce foutu silence. Et je sens la douleur au fond de ma poitrine qui s'agrandit. Soudain, je vois la menace de Léo. Et je comprends la trouille que ça nous inspire tous. Et la lâcheté qui va avec. T'en as une autre ? Me demande papa. Non mais pourquoi tu me prends pour qui ? MC Pouffon !
Par rapport au roman, les non-dits, parce qu'on ne sait pas s'ils meurent vraiment, on devine, on imagine. Peut-être. Est-ce que la grand-mère savait par avance ? Est-ce que, en même temps, ses amis l'avaient deviné aussi par son comportement ? C'est exprès qu'on ne dit pas tout ? Et est-ce que dans le roman, c'est différent ? Et on ne sait pas non plus comment il a attrapé la maladie, parce que ça pourrait être très bien par transfusion sanguine, tout simplement.
En fait, dans le roman, Yvan est au courant, parce qu'en fait, on a fait un raccourci, mais quand Léo s'enfuit, en fait, la grand-mère le ramène chez Yvan. Et du coup, en attendant, la mère a appelé la mère d'Yvan et lui a expliqué la situation. Donc Yvan dit « Je suis au courant pour Léo, allez, on dort, pouf ». Mais non, je ne me crois pas. On ne sait pas si la grand-mère était au courant. Elle le dit, enfin, il me semble, hein, je ne m'en souviens plus, mais je ne crois pas. Et non, ça fait exprès qu'il y a plein de non-dits. Ouais, on ne sait pas non plus l'histoire de Pépère, là. On ne sait pas s'il a vraiment existé, on ne saura jamais. Alors par rapport à comment il attrape la maladie, nous, non, c'est pas dit. C'est pas dit. Par contre, il y a une résolution, moi, qui ne me plaît pas. C'est-à-dire que dans le roman, ça gêne beaucoup Marcel, enfin Yvan et donc Marcel aussi, de savoir si Léo est pédé ou pas. Et je trouve ça chouette quand il demande à la mémère, et la mémère dit « mais on s'en fout » de savoir comment il l'a attrapé, si c'est par une fille ou un garçon. Et c'est ça que je trouve chouette, en fait, dans ce roman, c'est qu'on Mais en fait, on s'en fiche, que ce soit par transfusion sanguine, par ce qu'il ait fait l'amour avec un garçon et une fille, on s'en fiche, quoi. C'est pas le problème, c'est juste qu'il va mourir, quoi. Et dans le roman, c'est dit à un moment donné. Enfin, il y a un indice qui fait qu'on peut savoir s'il est homo ou pas. Et nous, ça nous a gênés, donc on l'a enlevé. On a enlevé l'indice. On a préféré rester sur ce que dit la grand-mère, quoi. Mais d'ailleurs, c'est la première scène. Hein. Dès la première scène, il y a le grand frère qui dit « Mais comment tu l'as attrapé ?» Et Léo refuse de répondre. Il dit « Mais de quoi tu me parles ? Si tu dis que je vais mourir et tu me demandes comment je l'ai attrapé, c'est absurde comme question. » Donc il refuse de répondre. Donc nous, on a refusé aussi de répondre, en fait.
Dernière question. T'es multicasquette, hein, puisque tu écris, tu mets en scène également et tu es comédien. Alors, c'est pas trop dur d'être en face d'un metteur en scène quand on est soi-même metteur en scène. On n'a pas envie, des fois, de dire « Ben... » j'aimerais bien porter ma petite touche.
Non, c'est super. Moi, je suis hyper content de me. Moi, si je fais trois choses différentes, c'est parce qu'à chaque fois, ça m'apporte quelque chose que je ne trouve pas dans les deux autres métiers, en fait. C'est-à-dire que quand je joue, je suis vraiment hyper content d'être au service de quelqu'un. Après, c'est évidemment, il y a un échange toujours. Enfin, mais bon, être au service de l'univers de quelqu'un, de pas décider, de me laisser. Pas décider. Quand on est comédien, on décide aussi, mais voilà. Bon. Et quand je suis metteur en scène, bah là, je suis content de prendre les choses en main, mais au bout d'un moment, je suis content de me retrouver. Donc, je n'ai pas de souci avec ça. Et puis d'ailleurs, quand je mets en scène, j'ai absolument pas envie de jouer dans mon spectacle. Enfin, ça me fait pas envie. Et puis quand j'écris des romans, bah, je suis bien content d'être tout seul dans mon coin, de faire ce que je veux, de pas dépendre d'autres acteurs, d'autres de théâtre pour leur demander de l'argent. Enfin, voilà. Donc, c'est voilà.
À l'issue de cette représentation, j'ai pointé mon micro devant quelques jeunes spectateurs pour avoir leur ressenti et leur ai demandé ce qu'ils pensaient de la thématique de ce spectacle.
Bah, c'était bien. Ça devait être dur quand même de jouer ça tout seul. Il y avait plusieurs personnages, tout ça.
J'ai bien aimé toutes les feuilles de papier qui déplaçaient sur les fils.
Bah, c'était cool, il n'y avait rien à dire.
Le thème abordé, quand même, il est assez intéressant. Est-ce que ça vous parle, vous ? Comment vous le prenez, ça ? Est-ce que vous connaissez d'abord la maladie du sida ?
Bah oui.
Tu peux m'expliquer un peu ?
C'est une maladie sexuellement transmissible qui peut être mortelle.
Je crois que ça affaiblit l'organisme et après, bah, par exemple, on peut mourir d'un rhume ou quelque chose comme ça.
Il faut se protéger avant de faire un rapport sexuel. Donc, sinon, après, on l'attrape.
Alors, est-ce que vous trouvez normal, vous, qu'on ne dise rien aux enfants quand il s'agit d'une maladie assez grave ?
Je crois pas, parce qu'il peut quand même comprendre. Enfin, peut-être qu'avec ses mois, lui, bah, on peut lui expliquer. On voit qu'il avait compris depuis le début, tout ça, et que... Enfin... Mais après, ils avaient quand même leur raison, les parents.
Bah, je pense pas, surtout que c'est une maladie incurable. C'était quelque chose de grave, mais qui peut se soigner encore. Mais là, on sait qu'il va mourir.
Bah moi je trouve qu'il faut en parler parce que sinon après si on n'en parle pas on peut être traumatisé. Comme dans la scène on peut partir et puis ne pourra jamais revenir parce qu'on est déçu que notre frère va bientôt mourir.
Thomas Gornet sera de retour sur la scène du Théâtre d'Arras en novembre, décembre et janvier prochain avec trois nouveaux spectacles. Si vous désirez plus d'infos sur la compagnie du Dagor, rendez-vous sur le www.compagnieduDagor.com. Thank you.
Clutch the light, the hollow breath.